Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Voix au chapitre. Evelyne Jobin.
Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose la suite et fin de l'adaptation du roman « Passion simple » de Annie Ernaux, édité aux éditions Gallimard en 1992. Les contraintes que m'imposait sa situation d'homme marié, ne pas lui téléphoner, ne pas lui envoyer de lettres, ne pas lui faire des cadeaux qu'il justifierait difficilement, dépendre constamment de ses possibilités de se libérer, ne me révoltait pas. Je lui remettais les lettres que je lui écrivais au moment où il partait de chez moi. Soupçonner qu'une fois lues, il les jetait peut-être en petits morceaux sur l'autoroute ne m'empêchait pas de continuer à lui écrire. Je prenais garde à ne laisser aucun signe de moi sur ses vêtements. Je ne lui faisais pas de marque sur la peau. Autant que le désir de lui éviter toute scène avec sa femme, il y avait celui de ne pas encourir de sa part une rancune qui l'aurait conduit à me quitter. Pour cette même raison, j'évitais de le rencontrer dans des endroits où elle l'accompagnait. J'avais peur de trahir devant elle par un geste spontané, caresser la nuque de A, arranger un détail de sa tenue, le lien que nous avions. Je ne voulais pas non plus souffrir inutilement en me représentant, comme chaque fois que je la voyais, A lui faisant l'amour. Que je la juge insignifiante, ou qu'il le fasse peut-être parce qu'il l'avait sous la main, ne pouvait rien contre la torture d'une telle vision. Devant la télévision, le soir, je me demandais s'il était en train de regarder la même émission ou le même film que moi. Surtout si le sujet en était l'amour ou l'érotisme, si le scénario avait une correspondance avec notre situation. J'imaginais alors qu'il voyait la femme d'à côté en nous substituant au personnage. S'il me disait avoir vu effectivement ce film, j'avais tendance à croire qu'il l'avait choisi ce soir-là à cause de nous, et que, représentée à l'écran, notre histoire devait lui paraître plus belle, en tout cas justifiée. Quelquefois, je me disais qu'il passait peut-être toute une journée sans penser une seconde à moi. Je le voyais se lever, prendre son café, parler, rire, comme si je n'existais pas. Ce décalage avec ma propre obsession me remplissait d'étonnement. Comment était-ce possible ? Mais lui-même aurait été stupéfait d'apprendre qu'il ne quittait pas ma tête du matin au soir. Quand je marchais dans Paris, en voyant défiler sur les boulevards de grosses voitures conduites par un homme seul à l'allure de cadre supérieur affairé, je me rendais compte que A n'était ni plus ni moins que l'un d'entre eux, d'abord soucieux de sa carrière, avec des accès d'érotisme, peut-être d'amour pour une femme nouvelle tous les 2 ou 3 ans. Cette découverte me délivrait, je décidai de ne plus le voir. Mais, en marchant, je regardais dans les vitrines les robes et la lingerie comme en prévision d'un prochain rendez-vous. Au printemps, mon attente est devenue continuelle. Une chaleur précoce s'était installée dès le début du mois de mai. Les robes d'été apparaissaient dans les rues, les terrasses des cafés étaient pleines. On entendait sans arrêt une danse exotique murmurée par une femme à la voix étranglée, la lambada. Tout signifiait des possibilités nouvelles de plaisir dont j'attribuais à A le projet de profiter en dehors de moi. Son poste, ses fonctions en France me semblaient très élevées, susceptibles d'attirer l'admiration de toutes les femmes. Je me dépréciais en proportion inverse, ne me trouvant aucun intérêt qui puisse le retenir auprès de moi. Un jour, j'ai commencé de lire dans un hebdomadaire de télévision un reportage sur une troupe de danseurs venus de Cuba en tournée à Paris. L'auteur insistait sur la sensualité et la liberté des Cubaines. Une photo montrait la danseuse interviewée, grande, avec des cheveux noirs, ses jambes longues découvertes. Au fur et à mesure que j'avançais dans ma lecture, mon pressentiment grandissait. À la fin, j'étais sûre que A, qui connaissait Cuba, avait rencontré la danseuse de la photo. Je le voyais avec elle dans une chambre d'hôtel et rien n'aurait pu à ce moment me convaincre que cette scène était invraisemblable. Sans cesse, le désir de rompre, pour ne plus être à la merci d'un appel, ne plus souffrir. Et aussitôt, la représentation de ce que cela supposait à la minute même de la rupture. Une suite de jours sans rien attendre. Je préférais continuer à n'importe quel prix, qu'il ait une autre femme, plusieurs, c'est-à-dire une souffrance encore plus grande que celle pour laquelle je voulais le quitter. Je fuyais les occasions de le rencontrer à l'extérieur au milieu de gens, ne supportant pas de le voir pour seulement le voir. Ainsi, je ne suis pas allée à une inauguration où il était invité, obsédée cependant toute la soirée par cette image de lui, souriant et empressé auprès d'une femme, de la même manière qu'il l'avait été avec moi quand nous avions fait connaissance. Ensuite, quelqu'un m'avait dit qu'à cette soirée, il y avait 3 pelés intondus. J'étais soulagée. Je cherchais à être au courant de ses loisirs et de ses sorties pendant le week-end. Je pensais, en ce moment, il est dans la forêt de Fontainebleau, il fait du jogging. Il est sur la route de Deauville, sur la plage à côté de sa femme, etc. Savoir me rassurait. J'avais l'impression que de pouvoir le situer dans tel endroit à tel moment me prémunissait contre une infidélité. Je ne voulais pas partir en vacances cet été-là, mais renoncer à partir, c'était lui avouer plus clairement ma passion que de lui dire « je suis folle de toi ». Un jour où j'étais en proie au désir de rompre, j'ai décidé à la place de prendre des réservations de train et d'hôtel pour dans 2 mois à Florence. J'étais très satisfaite de cette forme de rupture où je n'étais pas obligée de le quitter. J'ai vu arriver le moment du départ comme celui d'un examen auquel je me serais inscrite longtemps à l'avance et que je n'aurais pas préparé avec accablement et sentiment d'inutilité. Le pire était de ne pouvoir demeurer dans la chambre d'hôtel toute la journée à attendre le train qui me ramènerait vers Paris. Il fallait justifier le voyage en me livrant aux visites culturelles, aux promenades dont j'ai l'habitude en vacances. Je marchais des heures dans l'Oltre Arno, le jardin Boboli, jusqu'à la piazza San Michelangelo, San Miniato. J'entrais dans toutes les églises ouvertes, faisant 3 vœux, à cause de la croyance que l'un des 3 serait exaucé. Ils avaient tous trait à A, naturellement. Et je restais assise dans la fraîcheur et le silence, à poursuivre l'un des multiples scénarios, un séjour ensemble à Florence, nos retrouvailles dans 10 ans sur un aéroport, etc., qui me venaient continuellement partout, du matin au soir. Je ne comprenais pas que des gens cherchent dans le guide la date, l'explication de chaque tableau, toute chose sans relation avec leur propre vie. L'usage que je faisais des œuvres d'art était seulement passionnel. Je retournais dans l'église de l'Abbadia parce que c'était là que Dante avait rencontré Béatrice. Les fresques à demi effacées de Santa Croce me bouleversaient en raison de mon histoire qui deviendrait un jour, comme elle, des lambeaux décolorés dans sa mémoire et dans la mienne. Dans les musées, je ne voyais que les représentations de l'amour. J'étais attirée par les statues d'hommes nus. En elles, je retrouvais la forme des épaules de A, de son ventre, de son sexe, et surtout le léger sillon qui suit la courbe intérieure de la hanche jusqu'au creux de l'aine. Je n'arrivais pas à m'éloigner du David de Michel-Ange, étonnée jusqu'à la douleur que ce soit un homme et non une femme qui ait manifesté sublimement la beauté du corps masculin. Même si cela s'expliquait par la condition dominée des femmes, il me semblait que quelque chose était manqué pour toujours.
Voix au chapitre, Évelyne Jobin.
Il est parti de France et retourné dans son pays il y a 6 mois. Je ne le reverrai sans doute jamais. Au début, quand je me réveillais à 2 heures du matin, cela m'était égal de vivre ou de mourir. Le corps entier me faisait mal. J'aurais voulu arracher la douleur, mais elle était partout. Je désirais qu'un voleur entre dans ma chambre et me tue. Dans la journée, j'essayais d'être constamment occupée. Je ne pouvais pas regarder la télévision ni feuilleter des magazines. Toutes les publicités pour parfums ou fours à micro-ondes ne montrent que ceci : une femme attend un homme. Je détournais la tête en passant devant les boutiques de lingerie. Quand j'allais vraiment très mal, j'éprouvais le désir violent de consulter une cartomancienne. Il me semblait que c'était la seule chose vitale que je puisse faire. Un jour, j'ai cherché des noms de voyantes sur le Minitel. La liste était longue. L'une spécifiait qu'elle avait prédit le tremblement de terre de San Francisco et la mort de Dalida. Mais je n'ai appelé aucune voyante. J'avais peur qu'elle me prédise qu'il ne reviendrait jamais. Une nuit, l'envie de passer un test de détection du sida m'a traversé. Il m'aurait au moins laissé cela. Je voulais à toute force me rappeler son corps. Je réussissais à voir avec précision ses yeux verts, le mouvement de sa mèche au-dessus du front, la courbe de ses épaules. Je sentais ses dents, l'intérieur de sa bouche, la forme de ses cuisses, le grain de sa peau. Je pensais qu'il y avait très peu entre cette reconstitution et une hallucination, entre la mémoire et la folie. Une fois à plat ventre, je me suis fait jouir. Il m'a semblé que c'était sa jouissance à lui. Pendant des semaines, je me suis réveillée au milieu de la nuit, restant jusqu'au matin dans un état indistinct, éveillée et incapable de penser. Je voulais m'enfouir dans le sommeil, mais il demeurait continuellement comme au-dessous de moi. Je regardais les chemisiers, les chaussures que j'avais achetées pour un homme, redevenues des fringues sans signification, juste pour être à la mode. Était-il possible de désirer ces choses, n'importe quelle chose, autrement que pour quelqu'un, pour servir l'amour? Je ne supportais personne. Les gens que j'arrivais à fréquenter étaient ceux que j'avais connus durant ma relation avec A. J'imaginais qu'on se retrouvait dans un hôtel, à un aéroport, ou qu'il m'envoyait une lettre. Je répondais à des paroles qu'il n'avait pas dites, à des mots qu'il n'écrira jamais. Si je me rendais dans un endroit où j'étais allée l'année dernière quand il était là, chez le dentiste ou une réunion de professeurs, je mettais le même tailleur qu'alors, essayant de me persuader que les mêmes circonstances produiraient les mêmes effets, qu'il m'appellerait le soir au téléphone. En me couchant vers minuit, abattue, je me rendais compte que j'avais réellement cru à cet appel toute la journée. Je calculais toujours, il y a 2 semaines, 5 semaines qu'il est parti. Et l'année dernière, à cette date, j'étais là, je faisais ça. À propos de n'importe quoi, l'ouverture d'un centre commercial, la visite de Gorbatchev à Paris, la victoire de Chang à Roland-Garros, immédiatement, c'était quand il était là. Dans mes rêves, il y avait aussi ce désir d'un temps réversible. Je parlais et me disputais avec ma mère, décédée, redevenue vivante. Mais je savais dans mon rêve, et elle aussi, qu'elle avait été morte. Dans les autres rêves, je perdais mon sac, ma route. Je ne parvenais pas à remplir ma valise pour un train imminent. Je revoyais A au milieu de gens, il ne me regardait pas. Nous étions ensemble dans un taxi, je le caressais, son sexe restait inerte. Plus tard, il m'est apparu de nouveau avec son désir. On se retrouvait dans les toilettes d'un café, dans une rue le long d'un mur, il me prenait sans un mot. Le week-end, je m'obligeais à une activité physique forcenée, ménage, travaux de jardin. Le soir, j'étais épuisée, les membres engourdis, comme après que A avait passé l'après-midi chez moi. Mais là, c'était une fatigue vide, sans souvenir d'un autre corps et qui me faisait horreur. J'ai commencé de raconter « À partir du mois de septembre, je n'ai plus rien fait qu'attendre un homme, etc. » 2 mois environ après le départ de A, je ne sais plus quel jour. Alors que je peux me rappeler exactement tout ce qui est associé à ma relation avec A. Les émeutes d'octobre en Algérie, la chaleur et le ciel voilé du 14 juillet 89. Même les détails les plus futiles, comme l'achat d'un mixeur en juin, la veille d'un rendez-vous. Il m'est impossible de relier la rédaction d'une page précise à une pluie battante ou à l'un des événements qui se sont produits dans le monde depuis 5 mois, la chute du mur de Berlin et l'exécution des Ceausescu. Le temps de l'écriture n'a rien à voir avec celui de la passion. Pourtant, quand je me suis mise à écrire, c'était pour rester dans ce temps-là, où tout allait dans le même sens, du choix d'un film à celui d'un rouge à lèvres, vers quelqu'un. L'imparfait que j'ai employé spontanément dès les premières lignes et celui d'une durée que je ne voulais pas finie, celui de « en ce temps-là, la vie était plus belle », d'une répétition éternelle. C'était aussi produire une douleur qui remplaçait l'attente d'avant, des appels téléphoniques et des rendez-vous. J'avais envie de relire l'un ou l'autre des livres que j'avais lus si vaguement quand A était là. L'impression que l'attente, les rêves de ce temps-là y étaient déposés et que je retrouverais ma passion pareille à ce que je vivais alors. Pourtant, je ne me décidais pas à le faire, reculant superstitieusement au moment de les ouvrir, comme si Anna Karénine était l'un de ces ouvrages ésotériques où il est stipulé qu'on ne doit pas tourner telle page sous peine de malheur. Maintenant, c'est avril. Le matin, il m'arrive de me réveiller sans que la pensée de A me vienne aussitôt. L'idée de jouir à nouveau des petits plaisirs de la vie, parler avec des amis, aller au cinéma, bien dîner, me cause moins d'horreur. Je suis toujours dans le temps de la passion, mais ce n'est plus le même. Il a cessé d'être continu. Au détour d'une conversation, je crois comprendre brusquement une attitude de A ou découvrir un aspect de notre relation que je n'avais pas imaginé. Un collègue avec qui je buvais un café m'a confié qu'il avait eu une liaison très physique avec une femme mariée plus âgée que lui. Quand je sortais de chez elle le soir, je respirais l'air de la rue en éprouvant une formidable sensation de virilité. J'ai pensé que A avait peut-être eu la même sensation. J'étais heureuse de cette découverte, impossible à vérifier cependant, comme si j'avais saisi quelque chose d'impérissable. Maintenant, je regarde les pages écrites avec étonnement et une sorte de honte, jamais ressentie, au contraire, en vivant ma passion. Ce sont les jugements, les valeurs normales du monde qui se rapprochent avec la perspective d'une publication. Il est possible que l'obligation de répondre à des questions du genre « est-ce autobiographique ?» d'avoir à se justifier de ceci et cela empêche toutes sortes de livres de voir le jour, sinon sous la forme romanesque, où les apparences sont sauves. Février 91. Que tout cela commence à m'être aussi étranger que s'il s'agissait d'une autre femme ne change rien à ceci. Grâce à lui, je me suis approchée de la limite qui me sépare de l'autre, au point d'imaginer parfois la franchir. J'ai mesuré le temps autrement, de tout mon corps. J'ai découvert de quoi on peut être capable, autant dire de tout. Désir sublime ou mortel, absence de dignité, croyances et conduites que je trouvais insensées chez les autres tant que je n'y avais pas moi-même recours. À son insu, il m'a relié davantage au monde. Il m'avait dit « Tu n'écriras pas un livre sur moi ». Mais je n'ai pas écrit un livre sur lui, ni même sur moi. J'ai seulement rendu en mots, qu'il ne lira sans doute pas, qui ne lui sont pas destinés, ce que son existence, par elle seule, m'a apporté, une sorte de don reversé. Quand j'étais enfant, le luxe, c'était pour moi les manteaux de fourrure, les robes longues et les villas au bord de la mer. Plus tard, j'ai cru que c'était de mener une vie d'intellectuel. Il me semble maintenant que c'est aussi de pouvoir vivre une passion pour un homme ou une femme. Vous pouvez trouver le roman « Passion simple » de Annie Ernaux aux éditions Gallimard et notamment en collection de poche folio. D'autre part, en 2021 est sorti d'après ce roman un film éponyme réalisé par Daniel Arbide. Nous avons écouté en pause musicale « Mad About You » de Hooverphonic. Pour finir, une citation de Romain Gary dans « Clair de femme » Aimer est une aventure sans carte ni compas où seule la prudence égare. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour de nouvelles lectures relatives au thème de l'amour. Je vous souhaite une très bonne soirée et vous dis à samedi prochain.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.